Le dévoilement de Dieu numéro 166. La colonne de feu. Esther ici pour garder le pain de proposition. De Néhémie Passeux. Gâté. 9 août 2020. Pasteur Brian Kozurek. Le dévoilement de Dieu 167 alors. Mon ami. Si vous croyez ça. Vous n'êtes jamais entré en contact avec la gloire de la Shekinah. Comment la gloire de la Shekinah pourra-t-elle jamais révéler qu'il est Esther trois personnes? Voyez. Comment la gloire de la Shekinah pourra-t-elle jamais le révéler dans un baptême des gens au nom de Père, Fils et Saint-Esprit? Alors que pas une seule personne dans la Bible n'a été baptisée de cette manière-là? Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle le restreindre à un apôtre? Alors qu'il est Esther le même hier, aujourd'hui et éternellement? Voyez. 329 La gloire de la Shekinah le manifeste. Lui. Elle produit la parole de la promesse. Directement devant vous. C'est Esther pour cette raison qu'il lui a fallu voiler le visage de Moïse. C'est Esther parce qu'en lui se trouvait la parole. Il a voilé Jésus. Sous forme d'un petit homme humble. Pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Et il se voile aujourd'hui dans des vases de terre. Avec la Shekinah. Au dehors, ça ressemble à une bande d'exaltés, de vieilles peaux de blaireau. Mais au-dedans se cache la gloire de la Shekinah. Elle fait mûrir le pain de proposition dont nous nous régalons et pour lequel nous faisons des centaines de miles en voiture, d'un bout à l'autre du pays. Voyez, c'est Esther la nourriture des croyants. C'est Esther destinée uniquement aux croyants. Souvenez-vous, le pain de proposition était destiné uniquement aux croyants. Uniquement. Voyez-vous, la semence pain de proposition. 168 remarqué. Que fait-elle? Cette gloire de la Shekinah au-dessus du pain de proposition? Elle l'empêchait de se gâter. 330 Souvenez-vous, la manne qui descendait du ciel. Elle était conservée dans la gloire de la Shekinah de génération en génération. En dehors de là, les vers s'y infiltraient pendant la nuit. Elle se contaminait. Esther se vrait. L'assemblée dit, Amen. Tirendee 331 En dehors de la gloire de la Shekinah. Les jours des miracles sont passés. Voyez. Tout ça. C'est Esther du fanatisme. Mais à l'intérieur. Maintenant, cette déclaration que frère Branham fait, au sujet de la gloire de la Shekinah, qui Esther la colonne de feu, étant ici, pour garder le pain de proposition, de Néhémie pas se gâter, c'est Esther une chose importante, qu'elle accomplit. Et remarquez, il dit que le pain de proposition se trouvant dans la présence de Dieu, le garde d'une génération à une autre. Maintenant, ce matin, je vais essayer de décortiquer ces paroles et focaliser notre attention sur cela, parce qu'en dehors de la présence, la parousie de Christ, l'apparition qui s'accomplit avant la venue, en dehors de cette présence, vous pouvez écouter les bandes, chaque jour de votre vie et vous n'aimez les comprendrez pas, mais vous serez en train de manger de la manne. Elle aura des vers à l'intérieur, juste comme la manne authentique qui tomba du ciel au jour de Moïse. Si elle était gardée le jour suivant, elle était pleine des vers. Mais si cette manne était gardée dans la présence de la colonne de feu, elle demeurait aussi fraîche, le jour suivant et le suivant, jusqu'à la génération suivante, juste aussi bon. Juste aussi frais, comme le jour où elle était tombée. Et c'est Esther la présence de la parousie qui garde les bandes de notre prophète, aussi fraîche aujourd'hui, comme quand elle sortait de la bouche de Dieu. Et la seule chose qui la gardera fraîche, c'est Esther la parousie, la présence de Dieu. Ainsi, je veux que vous compreniez cela. Ainsi, lisons ce qui arriva lors du premier exode, Ainsi nous pouvons voir le modèle pour ce troisième exode. Exode 16:14-29. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, c'est-ce la manne? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est-ce le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homer par tête. Un homer équivalait à environ 3,64 litres, suivant le nombre de vos personnes. Chacun prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec le homer. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins ne manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, deux homers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et, Moïse leur dit, c'est-ce ce que l'Éternel a ordonné. Demain est-ce le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel, faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela n'émit de 20 points infect, et il n'émit 6000 points de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat, aujourd'hui vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est-à-dire pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place, et que personne n'ait mis sorte du lieu où il est au 7e jour. » Dans sa prédication, les demeures futures 2 août 1964 p. 104. Frère Branham dit, remarquez, c'était aussi ce 8e jour, le dernier jour, le jour de la fête des tabernacles. Remarquez qu'après ça, après le dernier jour de fête, après le dernier âge de l'Église, après les derniers 7 jours au complet sur terre, après le millénium, c'est là que cette sainte convocation a lieu. 216 Souvenez-vous, ici, c'est la fête des tabernacles, des lieux de rassemblement. Amen. Là où, comme dit la Bible, dans le millénium, ils bâtiront des maisons, ils habiteront. 217 Mais, sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer la place. Elle est construite. Nous n'avons rien à voir avec la construction de ça. Amen. Éternel. Oh! J'aime vraiment ce mot-là. Oh! Là là! Une sainte convocation. Le 8e jour. En fait, il n'y a que 7 jours. Puis, le 8e jour, on retourne au 1er jour, on retourne tout droit au 1er jour, le 8e jour reste une sainte convocation. 30-31 Et le peuple se reposa le 7e jour. Et frère Branham nous a dit qu'il y a une relaxation sous le septième sceau. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Vous savez que cela sent bon. J'aime les gaufrettes à la vanille et j'aime les biscuits à âme au miel. Ainsi, si j'ai des gaufrettes à la vanille, faites du miel, je pense que je peux en manger 3,64 litres par jour. Et pensez simplement que c'était leur seul repas. Ainsi, je n'y pense pas que vous vous affolerez à ce sujet. C'est-à-dire le premier pain, sans germe du blé. J'espère qu'au souper des noces, nous aurons pour tous les âges quelques échantillons qu'ils n'ont jamais testés. 32-35 Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homme rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Je ne sais pas si les gens ont réfléchi sur cette pensée, au sujet du fait que c'est très important de nourrir votre âme de la nourriture spirituelle autant convenable. Et je ne parle pas des prédications prêchées, il y a 50 ou 60 années. Je parle de la parole, rendue vivante aujourd'hui. Mais vous voyez comment cette parole est descendue, cette manne, ce pain venu du ciel, devait être mangée. Le jour où elle est descendue, et la seule exception, c'était le septième jour, c'est-à-dire ce qui était placé dans la présence du Seigneur. Cette manne peut rester frais, de génération en génération. Et la seule manière pour que ce message puisse être gardé frais, c'est-à-dire que vous puissiez vivre dans la présence du Seigneur de jour au jour. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 1:7 « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Et remarquez que Jean nous dit aussi que cette lumière de la vie. Jean au chapitre 8, 12. Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans toute la création de Dieu, chaque animal prend du temps pour former leurs jeunes et leur apprendre quoi manger et où les trouver. Et pourtant, quand on en arrive à la nourriture spirituelle, combien des gens aujourd'hui sont impliqués de manière active à leur croissance spirituelle? Combien des parents montrent-ils à leurs enfants combien la nourriture spirituelle est nécessaire pour grandir spirituellement? Combien des gens enseignent-ils à leurs enfants où ils peuvent trouver la nourriture spirituelle autant convenable? Combien des parents ont amené leurs enfants dans les brochures et des bandes et ont expliqué à leurs enfants quelle nourriture se trouve dans chacune de ces brochures et bandes? Vous savez, nous sommes habitués en ce jour à l'eau toxique, l'air toxique, et même de la nourriture toxique. Nous sommes très prudents de lire les labels sur la nourriture que nous achetons pour notre consommation. Et savez-vous que chaque bande ou prédication a un label aussi, de même que la nourriture naturelle que nous consommons? Mais combien des parents lisent ces labels sur les bandes ou prédications quand on recherche la nourriture appropriée à consommer? Et plus loin, combien des parents ont enseigné à leurs enfants de lire ces labels, comme vous leur enseignez de lire ces labels sur la nourriture naturelle, afin que vous vous rassuriez d'avoir les nutriments nécessaires pour votre corps. Bien. Votre âme n'est-elle pas plus importante que votre corps? Vous savez que les gens se disputaient au sujet de Jean 14, 12, où Jésus a parlé des œuvres de Dieu. Pourquoi n'ira-t-il pas à l'index des labels des prédications et voir frère Branham intituler l'une de ses prédications? Quelles sont les œuvres de Dieu? Oui. C'était la nourriture spirituelle autant convenable que j'ai lu et ensuite, quand j'ai vu ce que disait ce label, j'ai entendu attentivement la prédication. Plusieurs fois, je prends des notes et découvre qu'il y a beaucoup de travail de Dieu, et la liste est beaucoup qui sont faites en l'Église par les hommes à travers le monde. Et je trouve tous les nutriments pour avoir une vie victorieuse à travers ce pain. Il y a quelques années, nous avons eu un pain, appelé pain Wonder, et ils insistaient sur ce qui se trouvait sur le label, afin de vous influencer à manger ce pain, qui contenait plein des minerais et des vitamines. Ainsi, les labels sont importants, si vous recherchez la nourriture appropriée au temps convenable. Si vous avez des problèmes de poids dans votre estomac, vous regardez au label de nourriture que vous allez manger, qui vous empêche de prendre du poids. De l'autre côté, il y a des choses que vous pouvez manger, qui vous aideront à ne pas avoir un ventre plat. Ainsi, vous devez rechercher les labels de nourriture qui vous aideront à faire que votre ventre soit plat. Maintenant, ils sont importants pour la santé physique, mais qu'en est-il de votre santé spirituelle? Nous avons mangé un certain pain spirituel le mercredi soir, où le label disait, l'incrédulité Néhémie peut arrêter Dieu, et quand nous avons commencé à manger ce pain venu du ciel, cette nourriture spirituelle autant convenable, nous avons aussi découvert que Dieu n'est pas bloqué par l'incrédulité, et la seule qui soit bloquée par l'incrédulité, c'est l'incrédule lui-même. Dans la prédication, que le label déclare l'incrédulité n'arrête pas Dieu, 28 novembre 1962 p. 47. Frère Branham dit, car on ne sait, vous êtes contrôlé par deux facultés, soit vous croyez, soit vous n'y croyez pas. Eh bien, considérons l'incrédulité et voyons ce qu'elle fait. Elle crée des ennuis, elle suscite l'oppression, et elle n'y peut pas vous aider. L'incrédulité n'a aucune vertu du tout. Si vous, par exemple, si on allait vous fusiller à l'aube, il n'y vous servirait à rien de vous inquiéter à ce sujet. Pas du tout. Cela n'y ferait qu'empirer les choses pour vous. Vous n'y pouvez donc pas faire ça. Ce n'est pas bien de le faire. Eh bien, diriez-vous, que fait la foi? Elle. Que fait la parole de Dieu? Elle crée la foi. Eh bien, que pourrait faire la foi si on allait vous fusiller le matin? Elle pourrait me délivrer? Elle l'a déjà fait plusieurs fois. Assurément. Voyez, l'incrédulité n'a aucune vertu. Toute la vertu se trouve dans la foi, dans le fait de croire la parole de Dieu, de prendre Dieu au mot. Et nous voyons aussi derrière le label l'incrédulité n'arrête pas Dieu, 28 janvier 1962 MP, 38. Nous avons entendu frère Branham dire, l'incrédulité n'arrête pas Dieu, cela n'y détruit pas son plan, cela n'arrête pas ses œuvres, cela n'y détruit que l'incroyant. L'incrédulité n'y détruit que l'incroyant. Maintenant, notre nourriture naturelle possède des labels et nous enseignons nos enfants de consommer des aliments pleins de graisse, où il y a assez de calories, ou un taux élevé de carbohydrates, et ainsi nous avons été instruits à lire les labels, et examiner ce qui se trouve dans l'emballage ou la sacoche ou canette dans le but de faire que la majorité de notre repas soit naturel. Mais qu'en est-il de notre nourriture spirituelle? Avons-nous réellement examiné ce que nous entendons avant de le jouer? Raison pour laquelle je suis contre d'écouter toutes ces prédicateurs dénominationnels à la radio ou télévision. Vous mangez du poison. Et c'est-ce pourquoi j'ai adopté une position radicale contre le fait d'avoir une porte tournante ici. C'est-ce pourquoi je n'invite pas des gens à venir ici prêcher. Vous devez examiner ce que vous allez consommer avant que vous n'ayez vous asseyez et commenciez à manger. Sinon vous pourriez devenir malade dans le naturel. Alors combien n'est-il pas plus important dans le spirituel? C'est exactement ce que Dieu a dit dans Malachie 1:6-10, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est-il l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est-il la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est-ce en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Méprisable? Obsolète. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal acquis? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal acquis? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous. C'est-ce de vous que cela vient? Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je n'ai mis prend aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main n'ai me sont point agréables. Et frère Branham nous a enseigné la différence entre une colombe et un corbeau. Un corbeau mangera de tout, alors qu'une colombe n'aimée le fera pas, car elle n'aimée le peut pas. Une colombe n'a pas de bile, et par conséquent, elle mourra si elle mangeait n'importe quelle nourriture. Et c'est pareil pour un véritable fils de Dieu. Il n'aimée peut pas tout consommer dans son estomac. Maintenant, la nourriture est consommée dans nos corps et nos corps la digèrent, et la nourriture est décortiquée dans son état original et devient des nutriments dans nos corps. Cela s'en va dans l'estomac où elle est digérée et décortiquée en des simples complexes carbohydrates, des protéines, des graisses, et dans cet état les nutriments dans cette nourriture sont distribués au reste du corps à travers le sang. Bien, votre âme grandit de la même manière. La nourriture spirituelle autant convenable, apportée par un prophète de Dieu, qu'importe que cela ait été prêché, il y a de cela 50-60 années, et cette nourriture a été décortiquée par un quintuple ministère, qui brise cette nourriture spirituelle en profondeur, jusqu'à ce qu'elle prend le dessus, sur chaque fibre de votre être et finalement, prend le dessus de votre esprit et de votre âme et alors, cela se fraye son chemin dans votre corps et prend le dessus sur les actions de votre corps. Pour chaque âge de l'Église, Dieu envoie un messager à cet âge et de ce messager, la parole est diffusée par les hommes fidèlement enseignés. C'est pourquoi le Homère était rempli de la manne venue du ciel et aussi longtemps que cette manne demeurait dans la présence de la colonne de feu, la présence de la Shekinah de Dieu, elle demeure la même, hier, aujourd'hui et éternellement, la même vie apportant le pain. Du livre de frère Branham, intitulé Les sept âges de l'Église, chapitre 4, l'âge de l'Église de Smyrne p. 140. Il a dit, nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Frère Branham nous donne une illustration de la vie qui se trouve dans la semence originale, qui a été placé dans le grenier ou magasin, que Joseph avait placé là et que cette vie dans cette semence, étant en vie, peut être de nouveau semé et produire plus de la même semence. Au paragraphe suivant, le dévoilement de Dieu 169. Frère Branham dit, regardez, on a trouvé des graines de tournesol dans un grenier en Égypte. Elles avaient été mises là à l'époque de Joseph, il y a presque 4000 ans de ça. Joseph les avait engrangées. On les a plantées. Elles ont repris vie. Pourquoi? Il y avait de la vie dedans. Et de la nourriture spirituelle au temps convenable 18 juillet 1965 à 124. Il a dit, 124 remarquez, il y avait de la farine dans le pot. Chaque fois qu'elle allait chercher de la farine, il y en avait dans le pot. Il y avait de l'huile dans la cruche chaque fois qu'elle allait en chercher. Pourquoi? La farine représentait Christ dans l'offrande de farine. Les grains devaient être bien disposés pour que chacun d'eux soit moulu. Toutes les particules de cette farine étaient exactement identiques, montrant qu'il était le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'était la parole. Le pain de vie qui suit le message afin de confirmer la parole. 125 Ainsi on est stérile aujourd'hui, mes amis. Ainsi on est stérile aujourd'hui. Le pain de vie que les enfants mangent suit le message de Dieu afin de les soutenir pendant le temps de sécheresse. Qu'en serait-il s'il se tenait dans notre présence aujourd'hui? Qu'en serait-il s'il se tenait dans notre présence maintenant même? Il agirait et ferait exactement comme il le faisait au jour où il était dans la chair ici, sur la terre. L'épouse Esther une partie de l'époux. L'église Esther pareille à Christ. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et c'est Esther la parole qui faisait cela. Il nous a dit que les choses qu'il a faites, nous les ferions aussi. Remarquez, Jésus nous dit dans quelles conditions, les gens seront, au point d'être préoccupés par leur vie, qu'ils n'y feront pas attention, quand le royaume de Dieu sera établi. Luc 17, 29-30 Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Maintenant, Jésus nous dit ici, le Fils de l'homme, est-ce révélé comme dans la révélation? En d'autres termes, il parle du jour où le royaume de Dieu sera établi ici sur la terre, et il dit qu'il n'y viendrait pas de manière spectaculaire. Alors, il dit, mais cela viendra quand il se révèle lui-même, au temps de la révélation. Au temps de la révélation de Jésus-Christ. Ainsi, il sera au milieu des gens d'une manière inobservable, mais l'ennemi sera connu que par la révélation. Il sera là, et il sera établi, mais l'ennemi sera connu que par la révélation. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, l'ennemi descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs l'ennemi retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. En d'autres termes, Néhémie ne regardait pas en arrière, car c'est Esther ce qu'elle fit. Frère Branham dit que les gens ont toujours manqué de voir Dieu quand il vient, parce qu'ils regardent toujours en arrière et toujours au futur et faillissent de le voir, ce qu'il fait maintenant. 33-35 Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Maintenant, rappelez-vous dans la Bible une femme représente toujours une église. Ainsi, nous voyons ici deux types d'églises, et que faisait-il? moudre le mil. Et que moudrait, elle? Les semences de blé. En d'autres termes, ces deux églises apprêtaient, brisant pour en faire du pain. Et il a dit, l'une sera prise, l'autre laissée. Pourquoi l'une est-elle prise et l'autre laissée? 36 de deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Remarquez, non pas des femmes, mais deux hommes, représentant le ministère, et ils étaient dans les champs, et que représentent les champs? Bien, nous l'appelons le champ de mission. Esther se juste. Quand un homme entre dans le ministère, il entre dans le champ pour moissonner. Mais remarquez, qu'il continue à dire, quoique cela soit le même genre d'activité, partageait, il dit, l'un sera pris, l'autre laissé. Maintenant, l'écriture suivante, je lirai dans Voice Rendition, où nous voyons Jésus dans Matthieu 7, dit, 13 et 16. Il y a deux voies devant vous, vous n'avez mis pouvez que suivre une seule voie. L'une d'elles est étroite, et l'autre est large. Entrez par la voie étroite. Car la voie large conduit à un sentier large, et le sentier large est vaste, la voie large est facile, et vaste, cette voie facile, beaucoup l'empruntent, mais la large, vaste, facile, plein des gens, conduit à la mort. Maintenant, alors cette porte étroite conduit à une voie étroite, et aboutit à la vie. Il est difficile de trouver cette route. Peu nombreux, l'empruntent. Le long du chemin, observez les faux prophètes, ils viendront à vous, en vêtements des brebis, mais en dessous de cette pittoresque et innocente laine, ce sont des loups affamés. Mais vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Et frère Branham nous a enseigné le fruit de la saison, c'est-à-dire leur enseignement pour la saison, leur doctrine pour la saison. Jésus a continué. Vous n'avez mis trouvez pas des grappes doux et délicieux, provenant d'un buisson épineux. N'est-ce pas? Vous n'avez mis trouvez pas des figues délectables croître au milieu de chardons épineux. Les gens et leur vie sont comme des arbres. Les bons arbres portent de beaux, délicieux fruits, mais les mauvais arbres portent des fruits laids et amers. Un bon arbre némi peut pas porter des fruits laids et amers, ni un bon arbre némi peut porter des bons et délicieux fruits. Et qu'est-ce qui arrive aux arbres pourris? Ils sont coupés. Ils sont utilisés pour le feu. Quand un prophète vient à vous et prêche ceci ou cela, observez ses fruits, doux ou acide, pourri ou mature, ce n'est pas quiconque qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Qui m'appelle simplement, Seigneur, ce n'est mis sera pas suffisant. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père, qui est aux cieux. À la fin des temps, au jour du jugement, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Mais je leur dirai, je n'ai mis vous ai jamais connu. Et maintenant, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Remarquez, les deux dans le champ faisaient la même chose, deux hommes dans le champ. L'un prit, l'autre laissé. Pourquoi? Parce que la seule différence entre les deux n'était pas le genre de ministère qu'ils avaient, mais ce qu'ils apportaient au genre. La seule manière de les identifier, c'est par leurs fruits, soit la nourriture fraîche pour la saison où la vielle est pourrie, et pas bonne, pas appropriée pour être consommée dans aucune saison. La même chose est arrivée avec Caïn et Abel. Souvenez-vous, qu'ils étaient des jumeaux, Le même moment, même naissance, même mère, etc. Ils adoraient Dieu, tous deux. Ils présentaient tous deux des sacrifices à Dieu. Mais la seule manière de les identifier, c'était par leurs sacrifices, leurs fruits, ce qu'ils enseignaient comme étant la parole pour la saison. Le sacrifice d'Abel l'était par la révélation, celui de Caïn et Abel l'était pas. Dieu a révélé à Abel que c'était le mélange du sang, David du serpent, qui amena la chute, et qu'un Esther allait juste offrir son travail journalier. Tous deux, religieux, tous deux dans le champ, comme dans la parabole, tous deux, des adorateurs de Dieu, tous deux, ont offert des sacrifices à Dieu, mais l'un par la foi, par la révélation a offert à Dieu, un sacrifice plus excellent que l'autre. Et il a dit, l'un sera pris, et l'autre laissé. Pourquoi l'un Esther pris et l'autre Esther laissé? 36 Deux hommes dans le champ, remarquez, pas les femmes, représentant le ministère, et ils étaient dans le champ, et que représente le champ? Bien, nous l'appelons le champ des missions. Esther se juste, quand un homme entre dans le ministère, il va dans le champ pour la moisson. 37 Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Où serait-ce? Cela parle de la présence, s'assembleront les aigles. Eux d'autres termes, il y aura un rassemblement autour de la nourriture fraîche, ou la nourriture spirituelle autant convenable. Et cela se rapporte à la doctrine. La nourriture, ce n'est mis sont pas des histoires et des cantiques et des communions et des bons moments. La nourriture spirituelle autant convenable, c'est Esther la profonde profondeur de la parole. C'est Esther ce qu'Esther la nourriture. L'enseignement, qui Esther la doctrine. La version amplifiée le dit correctement. 15 Méfiez-vous des faux prophètes, enseignants qui viennent à vous, habillés en vêtements des brebis apparaissants, gentils et innocents, mais à l'intérieur, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, s'estèrent, par leur doctrine et leur moi. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ni peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui n'est mis porte pas de bons fruits, Esther coupé et jeté au feu. C'est Esther donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus a dit dans Marc 7:7-9 c'est Esther en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Alors, ils verront la parole. Comme elle s'accomplit, la parole deviendra vivante pour eux, et ils deviendront vivants par la parole. Maintenant, pour clôturer, lisons au paragraphe 170. Cette gloire de la Shekina aujourd'hui, qu'Esther, de pénétrer de l'autre côté du voile, pour voir qui est Esther Dieu là devant vous, voir qui est Esther Dieu ici devant nous, là la colonne de feu. Il est Esther volé dans la chair humaine. Mais que fait la Shekina? Que faisait-elle? La semence pain de proposition? La parole dont nous devons nous nourrir en ces jours-ci, par ses promesses, la gloire de la Shekina fait mûrir ce pain de proposition, en produit l'accomplissement, en fait du pain pour les croyants, ce qui était là, dans les pages de la Bible, année après année, la parole pour cet âge-ci. 334 Les dénominations, pour elle, c'est Esther une pierre d'achoppement. Les dénominations, elles, s'y achoppent. pendant toutes ces années? Luther, Wesley, Martin Luther, et tous, Sankey, Finney, John Smith, Knox, tous, ils s'y sont achoppés. La semaine prochaine, nous allons entrer dans ces promesses et vous montrer comment elles peuvent être vivifiées au temps de la présence de la parousie du Fils de l'homme. Inclinons nos têtes, alors que nous clôturons dans la prière. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.